Bon, merci Seigneur, merci pour la louange, pour ce temps que nous avons eu. C'est vrai que ça fait du bien d'entendre le Seigneur nous parler. Mais il faut savoir l'écouter aussi, c'est important. Alors bonjour, comment allez-vous ce matin?
Bien.
Ah super, c'est bien parce qu'en général on dit j'espère que vous allez bien. Mais là je vous pose la question. C'est parce que si je vous pose la question, c'est qu'en général, quand on pose une question, ben, on attend une réponse. Enfin on espère au moins une réponse. Bon, il arrive souvent que la réponse ne convienne pas. Peut-être qu'elle nous... C'est pas la réponse qu'on attendait, donc qu'est-ce qu'on fait? On repose la question. J'ai un petit exemple, quand je travaille, quand je sois à l'église ou en rendez-vous, c'était surtout quand j'avais mon entreprise, que j'avais les chantiers, mon épouse, elle m'appelait, elle me disait « Philippe, à quelle heure tu rentres ?» Alors la question, elle est assez simple quand même. Hein. Donc si elle est simple, la réponse, elle est simple. Et moi, je disais bah, « Écoute, je sais pas. » Bon, visiblement, « je ne sais pas », c'est pas une réponse. Puisque systématiquement, derrière, il y avait toujours la même question. « Non mais Philippe, à quelle heure tu rentres ?» Alors je comprends, c'est important d'avoir une idée de l'heure à laquelle on rentre, mais pour moi, « je ne sais pas », c'était une réponse. Comme 18h30 par exemple, je ne sais pas, ou 19h. Surtout que beaucoup de questions, cette réponse « je ne sais pas », eh bien, elle revient souvent. Les enfants par exemple, si on prend les enfants, on demande « qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Alors la grande majorité, qu'est-ce qu'ils vont dire ? « Ah ben écoute, je ne sais pas. » Oui, je ne sais pas, c'est une réponse. Hein. Voilà, on dit « Ah, mais ça ne va pas ce matin, qu'est-ce qui t'arrive ?»« Bon, écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai. » Cette question aussi, où tu en es avec le Seigneur ? Des fois, on dit « Ben, là, en ce moment, sincèrement, je ne sais pas. » Alors, il y a plein d'autres exemples, hein, mais vous voyez que cette réponse, elle revient régulièrement. Même si c'est une réponse... J'ai envie de dire qu'elle ne fait pas beaucoup avancer. La réponse « je ne sais pas », eh bien on stagne. C'est toujours, on est toujours dans le même point. Alors ce matin, j'aimerais que l'on puisse se poser 3 questions. Alors ces questions ne viennent pas de moi, elles viennent de la parole de Dieu. Et si ce matin, pour toi, la réponse à une de ces questions, c'est « je ne sais pas », je pense qu'il faudra que tu te reposes la question plusieurs fois jusqu'à ce que la réponse soit différente de « je ne sais pas ». Alors le titre du message serait pu être « je ne sais pas ». Mais comme Dieu attend de nous une autre réponse que celle-ci, alors le message ce matin a pour titre « 3 questions que Dieu te pose ». Alors écoutez bien les questions et surtout faites attention à vos réponses. Parce que le Seigneur, il n'attend pas la réponse « je ne sais pas ». Donc alors sans plus tarder, nous allons voir la première question. Elle se trouve dans le premier livre de la Bible. Alors j'ai dit le premier livre, je n'ai pas dit le plus ancien. Parce que les commentateurs s'accordent à dire que le plus ancien écrit de la Bible, c'est le livre de Job. Mais ce n'est pas le premier que le Seigneur nous met ou nous a transmis. Parce que quand on lit la Bible, hein, le premier qu'on trouve, c'est le livre de la Genèse. Alors est-ce que vous avez vos Bibles ce matin ? Joël demande régulièrement si nous avons nos Bibles. Et moi, fièrement, je la lève, je dis « Ouais, Joël, regarde, j'ai la Bible, je suis content ». Il y en a qui ont des téléphones aussi qui sont modernes, mais moi j'aime bien la version papier. Alors je me souviens une fois, lors d'une réunion, alors c'était pas ici, j'avais oublié de prendre ma Bible. Je l'avais pas avec moi, et le pasteur pose la question, et nous demande de lever nos Bibles. Alors heureusement, j'étais pas le seul à avoir oublié ma Bible, et il s'adresse à nous alors qu'ils avons oublié nos Bibles. Alors je m'adresse ce matin aussi peut-être à ceux qui ont oublié leur Bible. Alors je ne sais pas comment vous faites sans vos Bibles. Et lui, il a dit, parce que malgré toutes mes années de conversion, eh ben, je suis loin de connaître la Bible par cœur, pour pouvoir me passer de la Bible. Alors cela m'a fait rire, un petit peu amèrement, mais depuis, ben, je ne sors jamais sans ma Bible. Alors si vous avez oublié vos Bibles, ce n'est pas grave, parce que grâce à la technique, et Christina qui est derrière les commandes, lisons ensemble le premier verset. Donc Genèse 3 et le verset 9. Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Donc à ce moment-là, Adam et Ève, ben, ils s'étaient cachés. Ils avaient peur, ils avaient honte. Ça, on le voit au verset 10. Lisons le verset 10. Genèse 3, verset 10. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Alors ce matin, le Seigneur nous pose la question et te pose peut-être la question personnellement. « Mon enfant, mon ami, où es-tu ?» Alors on peut être à plein endroit. Alors ça, je ne sais pas, je pense que ce n'est pas la bonne réponse et elle ne viendra pas, puisqu'on est à plein d'endroits différents. Ou un endroit simple. Alors peut-être que tu es dans la culpabilité, comme Adam et Ève. Peut-être que tu es dans la honte d'un péché, d'une faute, qui t'empêche justement d'être dans la présence de Dieu. Il y a peut-être ta conscience qui te travaille en te disant que tu n'es pas digne de t'approcher de Dieu, que tu as besoin de prendre de la distance. Et peut-être que tu reviendras à Dieu quand tu en seras digne. Peut-être que tu te caches, comme faisaient Adam et Ève. Mais le Seigneur, ce matin, te dit, comme dans le jardin d'Éden, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est Dieu qui a cherché Adam. Et c'est Dieu qui est venu jusqu'à lui. Donc si tu es présent ce matin, si tu attends ce message, ben c'est que quelque part, toi aussi, Dieu te cherche. Et j'ai une bonne nouvelle. Non seulement il te cherche, mais en plus, comme Adam, il vient jusqu'à toi. Alors nous connaissons tous comment fonctionnent les religions. C'est un petit peu comme des escaliers, hein, qu'on essaye de monter, de gravir des étapes pour arriver jusqu'à Dieu. Mais Dieu est tellement haut, tellement grand que c'est impossible d'y arriver. Mais le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous adorons, que nous servons, n'est pas le Dieu d'une religion, mais il est le Dieu d'une relation. C'est lui qui vient à nous. C'est lui qui vient à toi ce matin. Il vient à la personne de Jésus. Jean 14, le verset 6 nous dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Alors cette relation qui était coupée, ou qui est coupée peut-être en ce moment, hein, à cause de la culpabilité, du péché, ce péché qui nous prive de la présence de Dieu, qui te prive en ce moment de la présence de Dieu, Dieu lui-même désire ben, rétablir cette relation. Dieu désire venir à toi ce matin. Et il te pose la question, où es-tu ? Alors toi, peut-être qui ne connais pas encore le Seigneur, te dis aussi, où es-tu ? Arrête de te cacher. Arrête de te voiler la face. Laisse-toi trouver par le Seigneur qui désire une seule chose ce matin, rétablir cette relation avec toi. Jésus, en mourant sur la croix, en ressuscitant le troisième jour, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a déchiré le voile. Ce voile qui nous séparait du lieu très saint. Il a déchiré ce voile qui nous séparait de la présence de Dieu. Éphésiens 2 et les versets 14 à 18 nous disent car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts. Car par lui, nous avons les uns les autres accès au Père dans un même esprit. Voilà ce qu'a fait Jésus sur la croix. Par sa chair meurtrie, il paye le prix de nos fautes, il paye le prix de tes fautes ce matin. Et par son sang, il te justifie, il te purifie et il te donne accès au Père. Ce Père qui par Jésus est venu, vient jusqu'à toi pour te dire où es-tu mon enfant. Alors ne tarde plus, parce que tu n'as plus de raison de te cacher, plus de raison de dire j'ai honte. Quand Dieu te dit où es-tu, ne réponds pas je ne sais pas. La réponse elle est simple finalement. Dis simplement je suis là Père. Je sais que je ne mérite rien, je sais ben, que je ne suis pas parfait, mais ça y est, j'ai fini de me cacher. Car en Jésus, tu as pardonné mon iniquité qui me séparait de toi. Et si je pose la question à un frère, une sœur qui connaît le Seigneur, peut-être depuis longtemps, qui a déjà une relation avec Dieu, alors je ne vais pas te poser la question « Où es-tu ?» mais je vais te poser la question « Où es-tu dans ta relation avec lui ?» Où es-tu ? Où en es-tu avec Dieu ? Vous savez, avant d'aller se cacher avec Dieu, Adam, il avait une relation avec Dieu. Hein, mais il a désobéi, il a eu honte et il est parti se cacher. Il a coupé cette relation. Et est-ce que toi, tu joues à cache-cache avec le Seigneur ? Je n'accuse personne. Hein, mais joues-tu avec l'iniquité ? Est-ce que tu joues avec un péché qui te culpabilise ? On l'a peut-être entendu ce matin dans un don spirituel. Alors je repose la question, est-ce qu'on joue à cache-cache avec le Seigneur des fois ? Est-ce qu'on s'amuse avec l'iniquité ? Et finalement on a honte et on se cache. ce qui nous empêche de revenir à lui. Ce qu'il y a de bien avec le Seigneur, c'est qu'il a toujours une parole de consolation. Alors, si tu es dans ce cas ce matin, j'ai un verset qui va te consoler peut-être. 1 Jean 1, 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors toi, mon frère, ma sœur, plus d'excuses. Si Dieu te pose la question « Où es-tu ?» ne réponds pas « Je ne sais pas. » Mais confesse tes erreurs. Confesse ton péché à Dieu. Et Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va t'accueillir les bras ouverts. Et tu pourras avec assurance lui dire « Je suis là. Je suis là, mon Dieu. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Je te demande pardon pour ce temps où peut-être je me suis caché. Je te demande pardon pour toutes ces fautes. Mais je vais revenir à toi ce matin. Alors si tu me poses la question « Où es-tu ?» Je suis là, à tes pieds. Donc voyons maintenant la deuxième question. Genèse 3, le verset 11. Genèse 3, verset 11. 11, s'il te plaît, Christina. Je ne sais pas si... Oh, voilà, super. Et l'Éternel, Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Alors Dieu demanda à Adam, « Qui lui a dit qu'il était nu ?» Il avait reçu cette information où ? De qui ? Qui c'est qui avait dit à Adam, tu es nu ? La source était-elle fiable ? Si oui, que fait-il avec cette information ? Alors je nous pose la question ce matin. On peut se poser la question de façon personnelle. Mais moi, personnellement, je me pose la question. Qui t'a appris que ? Voilà, ça c'est notre seconde question. Qui t'a appris ce que tu sais ? Qui t'a appris ce que tu avances ? Qui t'a appris ce que tu vis aussi finalement chaque jour ? Quand on cherche un travail, c'est plus facile, plus simple, je pense, avec des diplômes. C'est mieux un CV rempli de diplômes qu'un CV qui est vide. C'est bien d'avoir des connaissances, d'avoir une bonne formation. C'est logique, parce que quand on nous confie une tâche, si l'employeur nous confie une tâche, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous demander nos compétences, ce que nous savons du métier, si nous avons de bases solides, fiables. Je prends un exemple, moi, si je dois refaire... Alors, je n'appellerai pas un électricien pour refaire mon tableau électrique puisque je suis électricien de formation. Mais admettons, j'appelle un électricien parce que j'ai trop de travail et je n'ai pas le temps de faire le tableau. J'appelle l'électricien et je lui dis « Dis-moi, où c'est que tu as appris le métier d'électricien ?» Mais lui, tout fièrement, le métier d'électricien, je l'ai appris dans une école de boulanger-pâtissier. Je crois que je vais réfléchir à deux fois avant de lui laisser toucher mon tableau. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Quelles sont tes sources ? Sur quoi bases-tu ta foi ? C'est quoi le fondement de ta vie chrétienne ? J'ai envie de vous dire, la seule et unique source qui est fiable, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Moi, avant ma conversion, j'étais comme beaucoup, je pense, à me dire que la Bible, finalement, c'était un livre comme les autres, écrit par des hommes. Et la Bible elle-même, elle dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». Alors pourquoi écouter ce qu'elle dit ? Et le prendre pour argent comptant. Je vais vous dire pourquoi justement la Bible est la parole de Dieu. Je vais vous donner peut-être quelques chiffres sur la Bible. Alors peut-être que vous connaissez déjà, mais c'est bien de se rappeler ce qu'est la parole de Dieu. Alors dedans, il y a 66 livres. Sur les 66 livres, il y a 40 auteurs différents. Elle a été écrite sur une période, je ne sais pas si vous savez, de 1600 ans. C'est énorme. Pour vous donner une idée, c'est comme s'il y a un livre qui a été écrit vers l'an 400 à peu près, 400, 424, allez, pour être exact, et on finira à peine l'écrire maintenant. C'est énorme sur le temps là, sur lequel a été écrite la Bible. Alors déjà, le défi est énorme, 40 personnes pour écrire un livre sur une période de 1500 ans. Et parmi les auteurs, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des prophètes, des rois, des serviteurs de rois, il y a des pêcheurs de poissons. Il y a un collecteur d'impôts, il y a un berger, il y a un médecin, il y a un fabricant de tentes. Donc déjà, il y a des gens bien différents les uns des autres et des époques qui sont aussi différentes. Mais malgré tout, la Bible, elle reste cohérente. Elle ne se contredit jamais. Et dedans, on n'y trouve aucune erreur. Sans parler de sa richesse prophétique. vais prendre un petit exemple. Jésus, à lui seul, réalise au cours de sa vie plus de 33 prophéties de l'Ancien Testament. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Mais lisez la Bible, et c'est marqué. Et il y a un docteur, un mathématicien, qui a fait un petit calcul. Il a dit, tiens, je vais calculer la probabilité qu'une personne, donc Jésus, puisque là on parle de Jésus, puisse réaliser ben, juste 8. Sur les 33, il en a pris 8. Et il a dit, je vais calculer la probabilité que ces prophéties se réalisent. Il a trouvé un chiffre, c'est 1 et 17 zéros derrière. Ça fait à peu près, je crois, c'est 1 milliard de millions. Bon là, ça ne parle pas, c'est vrai qu'un milliard de millions. Alors ce qu'il a fait, ce monsieur, il a calculé, il a dit, tiens, on va prendre 1 milliard de millions de pièces de 2 euros. Et ce qu'on va faire, on va les répandre sur toute la surface de la France. Ça va faire à peu près une hauteur de 50 cm. Vous imaginez, c'est quand même énorme, hein. Et là, sur une pièce, on va faire une marque. On va la jeter en plein milieu, on va tout mélanger. On va prendre quelqu'un, on va lui bander les yeux. Et on va lui dire, allez, tiens, tu montes à Dunkerque, tu vas à Brest, où tu veux, toute la France, tu te balades où tu veux. Mais tu as une seule chance pour récupérer la pièce. Voilà la probabilité pour que 8 prophéties de Jésus se réalisent. Et il y en a au moins 33. Rien que pour Jésus. Alors permettez-moi, si vous voulez bien, si même cet article, ces probabilités ne nous a pas convaincus, j'espère que la parole va vous convaincre. On va lire deux versets dans la Bible. 2 Timothée 3, le verset 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, qui vient pour là ou les premières fois peut-être, toi qui écoutes aussi peut-être ce message sur Internet, sur quoi fondes-tu ce que tu sais ou ce que tu penses savoir? Parce que des fois on croit qu'on sait. C'est rigolo ça, hein? On pense savoir, mais non, on se trompe. Quelles sont tes sources? Sur quoi te fondes-tu? J'ai envie de dire que nos vies soient fondées sur la parole de Dieu. Qui t'a appris? Alors moi, personnellement, j'avais besoin d'être convaincu. J'étais dans l'émotion, j'étais dans le ressenti. C'était important pour moi. Il fallait que je sois convaincu. Et en plus, c'était bien, je pouvais affirmer ça avec un verset de la Bible, hein, qui dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, est péché. Mais par contre, volontairement, je laissais de côté le passage qui dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Alors je voulais me convaincre tout seul. Je me fiais juste à mon ressenti. Mais est-ce que vous savez que nos sentiments ne sont pas fiables? Est-ce que vous savez que nos ressentis ne peuvent pas s'y fier? Quand on a faim, c'est bizarre, mais tout semble bon. Quand on n'a pas d'argent, ouais, c'est pas compliqué, il y a tout qui est cher. Quand nous sommes heureux, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Quand nous sommes malheureux ou en colère, bon, je vous laisse imaginer comment sont les gens, hein. Je ne dirai rien. Prenons la bonne habitude, de prendre nos sources dans la Bible. Dans chaque situation de notre vie. Quel soit le fondement de nos vies. Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Maintenant, si on te pose la question, qui t'a appris? J'espère que ta réponse sera, j'ai pris ma source dans la parole de Dieu. C'est de là que j'ai appris, c'est là que je sais ce que j'avance. Alors maintenant que nous avons les deux premières questions qui nous concernent, peut-être chacun personnellement, de manière individuelle, regardons la troisième question, peut-être qui concerne autrui, une question qui est liée à l'autre. Quel rapport avons-nous avec les autres? Donc lisons les versets. Genèse 4 et le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Où est ton frère Abel? On peut remplacer Abel par notre prénom. Où est ton frère Philippe? Où est ton frère Joël? Où est ton frère Sylvain? J'espère ne pas être trop centré sur moi-même, J'espère ne pas être trop centré sur ma vie, sur mes soucis, sur mes envies, sur mes désirs. Pour avoir comme réponse, ah ouais mince, ben je ne sais pas. Abel répondit, suis-je le gardien de mon frère ? Quelle réponse donnerons-nous à Dieu s'il sait un frère, et si on sait aussi un frère dans le besoin, et que je n'ai rien fait, et qu'il me demande, où est ton frère ? Vais-je lui dire, suis-je le gardien de mon frère ? Alors on ne parle pas forcément de besoin matériel, hein, parce qu'on peut parler des intentions aussi. Hein. Ma vie est-elle centrée sur moi ? Pour que je ne sache même pas où est mon frère. Est-ce que ma vie est centrée sur mes besoins personnels ? Ou alors est-ce que je fais attention, justement, à ceux qui sont autour de moi ? 1 Corinthiens 12, le verset 26 nous dit et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Alors je ne parle même pas des membres de l'église ou des frères ou des sœurs, ni même d'un voisin, d'un ami, d'un collègue de travail. Mais on va se recentrer peut-être sur notre foyer. Faisons-nous attention à notre époux. Faisons-nous attention à notre épouse, à nos enfants, à nos parents. Où est-ce que je suis centré sur mes soucis, sur mes envies ? Mais est-ce que je remarque si mon épouse ne va pas bien en ce moment ? Ou mes enfants, comment ça se passe à l'école ? Si le Seigneur me dit, Philippe, comment va ta fille ? Est-ce que je vais dire, je ne sais pas, c'est vrai. Il faut que je m'en occupe. Donc je pense qu'il est important, indispensable, de savoir où est mon frère, où est ma sœur. On aime dire que nous sommes chrétiens, que nous allons à l'église chaque dimanche, en semaine, et c'est bien, je suis fier moi personnellement de dire que je suis chrétien. Mais la Bible dit, Jean 13, le verset 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. » Alors oui, je peux répondre fièrement, je pense même sincèrement, avoir de l'amour pour chacun d'entre vous ici ce matin. C'est sûr. Sincèrement, il n'y a pas de problème, j'ai de l'amour pour chacun d'entre vous ce matin. Mais puisque mon fondement, c'est la Bible, je vais aller voir ce que la Bible dit sur l'amour. Parce que je ne vais pas voir ce que mon amour à moi. Parce que moi, je vous aime d'un amour limité, puisque je suis quelqu'un de limité. Mais si je veux être fidèle à ce que dit Dieu, puisque mes fondements, justement, on l'a vu, c'est la Bible, que dit la Bible sur l'amour ? 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7. Donc l'amour est patient. Alors, on pose la question ce matin. Est-ce que nous sommes patients ? À chaque instant, à chaque moment. Parce que l'amour est patient. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein. C'est mon fondement. C'est sur ça que je base ma vie chrétienne. Alors c'est bien, l'amour est patient, mais est-ce que je pratique la patience ? Quand on m'énerve. Ah, quand on m'énerve pas, c'est facile. Moi, je suis très patient. Il n'y a pas de problème. Mais quand je suis contrarié, est-ce que j'ai de l'amour ? Est-ce que je suis patient ? L'amour est plein de bonté. Alors quand je l'ai... Poche remplie d'argent, pas de problème. Je peux être très généreux, plein de bonté. Mais quand je dois donner un petit peu de mon nécessaire, est-ce que je suis plein de bonté ? L'amour n'est pas envieux. Alors quand j'ai une belle voiture, pas de problème. Je ne suis pas envieux. Mais si ma voiture est en panne, est-ce que je n'envie pas un petit peu le voisin qui a une belle Mercedes ou une belle voiture ? Pose la question, hein. Je me pose la question aussi personnellement. Hein. Mais bon, je dis que je suis chrétien, que le fondement c'est ma Bible. Alors je vais voir ce que dit la Bible. Hein. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Alors la malhonnêteté, c'est pas que voler. Hein. La malhonnêteté, ça peut être très large. Ça peut être très très large. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Ah, on le dit souvent. Hein. Oh là là, je suis pressé, juste maintenant, je la croise ou je le croise. Oh, la malhonnêteté, ça va loin. Hein. Il ne cherche pas son intérêt. Je continue hein. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. Ah, tu as vu comme il m'a regardé? Tu as vu ce qu'il m'a dit là? Ah, c'est bizarre. Non, c'est bizarre, je suis sûr. Non, non, il pense, y a quelque chose qui ne va pas. Non, 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 l'amour ne soupçonne pas le mal. Jamais. L'amour, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Alors ouvrez bien vos oreilles là, hein. Restez assis. L'amour pardonne tout. Et je crois que ça c'est le plus dur. Parce que c'est l'amour pardonne tout. Ça pardonne pas ce qui est pardonnable. L'amour pardonne ce qui est impardonnable. C'est ça l'amour. L'amour croit tout, il espère tout. Il supporte tout. Voilà l'amour que je veux pratiquer. Puisque j'ai fait de la Bible, de la parole de Dieu, mes fondements. Voilà sur quoi j'ai appris. Donc si on me dit, Philippe, mais comment tu as appris à aimer comme ça? Bon, j'en suis loin, hein, je vous rassure. Hein. Et j'ai envie de dire fièrement, mais c'est la Bible. C'est elle mon fondement. C'est ce que Dieu me dit. Alors, quelles seront maintenant tes réponses aux trois questions que le Seigneur t'a posées ce matin? Première question, où es-tu? Comment te positionnes-tu dans ta relation avec Dieu? Tu joues à cache-cache? Ta réponse, c'est « je ne sais pas ». Ou alors ta réponse, c'est « je suis là, Père. Je sais que je ne mérite rien. Je sais que je ne suis pas parfait. » Je sais que je n'aime pas encore comme je dois aimer. Je sais que le chemin est long, mais ça y est, c'est fini. J'ai fini de me cacher. Car en Jésus, tu as pardonné mon iniquité qui me séparait de toi. Et en Jésus, avec Jésus dans ma vie, je peux aimer comme toi, tu me dis d'aimer. Je peux être patient comme toi, tu me dis d'être patient. Je peux être honnête comme toi, tu me dis d'être honnête. Je peux pardonner. Comme toi, tu me demandes de pardonner. Nous avons vu la seconde question. Qui t'a appris que? Tu bases ta foi, ta vie sur tes propres expériences? Tu as des sources peut-être qui viennent d'Internet? Je ne sais pas, on peut trouver des informations un peu partout. Hein. Mais j'espère que ta réponse est j'ai ma source dans la parole de Dieu. J'ai mon fondement dans la Bible. Alors maintenant que tu sais tu en es avec le Seigneur, j'espère que ta réponse maintenant c'est plus je ne sais pas, que tu as réussi à te positionner, que tu ne te caches plus. Maintenant tu sais que si tu tombes, ben, que tu reviens à Dieu, et il ne se lassera pas de te pardonner, parce que si tu confesses tes fautes, Dieu est fidèle et juste pour te les pardonner. Ça c'est la première question, première réponse. Maintenant que ta vie est fondée sur le roc, que tes sources sont fiables, puisqu'elles viennent de la parole de Dieu. Donc si tu reviens à Dieu, que tu lis, écoutes sa parole, et surtout que tu la mets en pratique, que tu bases ta vie sur ça, eh bien, peut-être qu'on va pouvoir répondre au premier commandement. Que Jésus nous rappelle dans Marc 12 et le verset 30. Donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc si tu reviens à Dieu, si tu lui demandes pardon, que tu confesses tes péchés, que tu reconnais que tu es pécheur et que tu reviens à lui, si tu écoutes sa parole, que tu la mets en pratique, ben tu pourras honorer ce commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Parce que aimer, c'est facile à dire, mais vous demandez à n'importe qui. Tu préfères que ton époux, ton épouse te dise « je t'aime » ou qu'il te montre qu'il t'aime? Ben c'est pareil avec Dieu. Il aime bien l'entendre dire qu'on l'aime, hein, mais c'est bien de lui montrer, justement en mettant sa parole en pratique et en revenant à lui quand il faut demander pardon. Maintenant, la troisième question. Qu'en est-il de ta communion fraternelle? Alors, je ne vais pas faire un grand discours. Que chacun puisse y répondre dans son cœur. Mais avant ça, je vais vous laisser un verset quand même avant de partir. Marc 12 et le verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Seigneur mon Dieu, merci encore pour qui tu es. Merci pour ta parole, merci pour ta présence, c'est vrai, au milieu de nous. Je te loue et te rends gloire, Seigneur, de ce que tu as fait de moi, Seigneur, un jour, ton enfant. C'est pas moi qui te cherchais, Seigneur, je pensais que c'est moi qui te cherchais, mais c'est toi qui me cherchais. C'est toi qui es venu jusqu'à moi. C'est toi qui est venu m'enlever, Seigneur, de là où j'étais, pour faire de moi ton enfant, Seigneur. Et je te dis merci. Merci, Seigneur, aide-moi chaque jour, Seigneur, à avancer, c'est vrai, dans ta parole, en être digne, Seigneur, que je puisse la mettre en pratique chaque jour. Merci Seigneur pour l'assistance de ton esprit, Seigneur, qui sans lui nous ne pouvons rien. Merci Seigneur encore pour ton Église. Merci de bénir chacun d'entre nous. Je te loue, te rends grâce encore pour qui tu es. Viens te glorifier, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, dans chacune de nos vies. Que nous puissions être le reflet de ta gloire, c'est vrai, dans nos vies, Seigneur. Tu y en dis dans ta parole. Nous reconnaîtrons que vous êtes mes enfants, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alors que nous puissions, Seigneur, nous aimer comme toi tu nous as aimés. Et c'est toi qui nous as aimés le premier. Merci pour qui tu es. Et que toute la gloire, Seigneur mon Dieu, t'en revienne. Amen.
Bénisse nos cœurs. Avant qu'on puisse se séparer, voilà juste quelques annonces.